Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. En 1948 et 1954, disparaissaient Auguste et Louis Lumière, pionniers du cinéma. Ces deux frères, nés d'un père visionnaire à la fois peintre et photographe, ont été leur vie durant d'inlassables aventuriers de l'image. Les brevets qu'ils ont déposés se comptent par centaines. C'est leur vie que je vous propose de vous raconter aujourd'hui dans un épisode en deux parties. Première partie, Antoine Lumière, patriarche et prophète. Les deux enfants ont installé au pied de la falaise le matériel photographique prêté par leur père. En cet après-midi d'été 1877, les nuages semblent répondre aux voiliers qui ce jour-là glissent lentement sur la mer. Auguste, 14 ans, et Louis, 12 ans, ne se lassent pas d'explorer ce littoral breton qu'ils ne connaissent que depuis peu. Aujourd'hui, leur lieu d'exploration porte un nom enchanteur, la Goule aux Fées. C'est une grotte, à fleur d'eau, à quelques minutes à pied de Dinard. L'endroit est source de nombreuses légendes.
Une sage-femme dont les services avaient été requis par les fées de la Goule se fit remettre une pommade pour frictionner le nouveau-né avec la recommandation expresse de ne pas en porter à ses yeux. Mais elle désobéit et sa vision changea. La grotte se transforma en château et les fées en princesses. Quelque temps plus tard, grâce à la pommade magique, elle aperçut une fée en train de voler et elle ne put s'empêcher de le dire tout haut. La fée, qui se savait invisible, lui arracha l'œil qu'elle avait frotté avec l'onguent merveilleux.
La tentation est grande pour Auguste et Louis de mettre ces fées au défi de la photographie. Leur magie résistera-t-elle à celle de la science et de ses techniques? Nul ne sait ce que sont devenus ces premiers essais photographiques des deux frères, mais le moment a été en tout cas suffisamment solennel pour que tous deux, saisis par la beauté de ce site hors du temps, se soit fait le serment de ne jamais se séparer, ni dans le travail, ni dans la vie. Le quotidien de leur enfance est déjà une invitation à la rêverie. Leur père, Antoine Lumière, est un des rares photographes professionnels que compte alors la France. La technique date déjà de plusieurs décennies, mais chaque année qui passe apporte son lot de découvertes et d'améliorations. Antoine, qui est aussi peintre, fait partie de ces artistes de la fin du 19e qui ont accepté de mettre la science au service de l'art. D'abord simple peintre d'enseigne, il a décidé de s'installer à Lyon en 1861, juste après son mariage. C'est là qu'il a fait la rencontre qui a bouleversé sa vie. Dans le café de la gare, il engage la conversation avec un voyageur. On sympathise, on parle art, technique. L'inconnu lui montre alors un classeur qui contient des portraits photographiques. Antoine est très impressionné. C'est de ce jour qu'il décide de devenir photographe. Avec son épouse, il s'installe à Besançon. C'est dans la ville de Victor Hugo que le couple donne naissance à ses deux premiers enfants. Auguste, né en 1862, Louis, en 1864. Les garçons grandissent à quelques pas de la maison natale de l'auteur des Misérables. Antoine se perfectionne en peinture. Il n'est pas dénué de talent. En 1865, ses toiles sont même saluées par la médaille de la ville. Pourtant, c'est déjà la photographie qui hante son imagination. Il ouvre un commerce, propose de tirer des portraits, sans grand succès. La clientèle est plutôt rare. Lorsque la guerre de 1870 entre la France et la Prusse éclate, la famille Lumière décide de repartir pour Lyon. Antoine veut y acheter un commerce de photographie. Il n'en démord pas. Il en a trouvé un que son propriétaire veut céder. Mais il va rapidement déchanter. Le travail n'est pas à la hauteur de ses aspirations. Il s'agit de reproduire des peintures en photographie pour constituer des catalogues. Rien de vraiment excitant. Antoine, lui, rêve d'autre chose. Il finit donc par lâcher l'affaire et s'associe à un autre commerce. Nouvelle déconvenue. L'atelier qu'il occupe est situé au sommet d'un immeuble et ne bénéficie d'aucune visibilité depuis la rue. Comment, dans ces conditions, attirer les clients ? En désespoir de cause, Antoine finit par acheter un terrain sur les Hospices de Lyon. Il y fait édifier un atelier tout en bois. C'est peu reluisant, mais il peut enfin y placer une enseigne à lui.
Antoine Lumière, peintre photographe de la Barre, rez-de-chaussée, à côté de l'école de médecine.
En guise de publicité, Antoine dépose dans les commerces de Lyon une photographie le représentant debout à côté de son matériel. La composition est imposante. Antoine semble disparaître à côté de ses appareils, entouré de tout un bric-à-brac d'ustensiles qui évoque l'univers d'un brocanteur ou d'un illusionniste. Mais cette fois, c'est le succès. Une clientèle aisée se presse à la porte de son atelier. Des années plus tard, l'un de ses fils se souvient.
Dans l'atelier de mon père, ont défilé pendant de longues années un très grand nombre de personnalités lyonnaises ou de passage dans notre ville, attirés par la réputation que mon père avait su acquérir dans son art.
La famille s'enrichit. On déménage dans un appartement plus grand. Antoine, dont l'imagination est intarissable, redouble d'inventivité pour attirer de nouveaux clients. Il veut toucher les populations peu argentées et met au point un procédé de tirage sur plaque d'acier, le ferrotype, beaucoup moins cher que les épreuves habituelles. Il propose aussi, pour 12 francs, des photographies japonaises. C'est un ensemble de 12 prises de vue faites par 12 objectifs disponibles en 10 minutes. La réussite est totale. On fait la queue devant l'atelier d'Antoine. Certains jours, il peut y avoir devant sa porte jusqu'à 200 clients qui attendent pour leur portrait japonais. Auguste et Louis, qui sont alors au seuil de l'adolescence, aident leur père dans l'organisation des prises de vue. Très vite, il se familiarise avec toutes les techniques nécessaires. À 12 ans, Louis pratique lui aussi la photo japonaise pendant les vacances. À Lyon, l'entreprise Lumière acquiert une immense notoriété, une notoriété qui rapidement dépasse les frontières de la ville. Au point que la consécration nationale arrive enfin en 1878. Les portraits d'Antoine sont remarqués lors de l'exposition universelle qui se tient à Paris. Antoine peut enfin se livrer à son immense projet, placer la photographie au cœur du quotidien des gens. Cette deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par une frénésie d'inventions sans précédent dans l'histoire. Science et technologie rivalisent pour révolutionner le monde. De nouvelles énergies sont découvertes. En quelques décennies, on a mis au point la machine à vapeur, le télégraphe, le phonographe, la pile voltaïque, l'électricité, le macadam. La photographie bénéficie de toutes les découvertes faites par la physique et la chimie. Antoine va tenter de conjuguer toutes ces richesses, toutes ces nouveautés, et de les placer au service de son art, l'art photographique. Les portraits japonais ayant fait sa fortune, il a maintenant les moyens de se faire construire un atelier flambant neuf, dans lequel, fête unique à Lyon, il fait installer l'électricité. Il est aussi le premier à adopter pour son commerce une enseigne clignotante. Le 18 avril 1879, Antoine organise pour la presse lyonnaise une visite de son atelier entièrement éclairé à l'électricité.
le vieux soleil est détrôné d'une de ses prérogatives. Pour nous mettre à hauteur des sentiments modernes, nous disons que s'il avait mis ses rayons en action certainement à la suite des expériences d'hier, ses actions auraient subi aujourd'hui une baisse justifiable à la Bourse de Lyon.
Les découvertes se succèdent. Antoine a vécu les premiers temps de la photographie. Il a été le témoin du passage de l'épreuve unique inventée par Daguerre à l'épreuve reproductible sur plaque de verre. Mais maintenant, animé par le désir de rendre son art accessible à tous, il va s'intéresser de près à une nouvelle technique qui permet de développer une plaque photographique bien après son exposition. Le secret de ce procédé révolutionnaire, c'est l'émulsion au bromure d'argent dont on recouvre le support.
Vous prenez de l'acide bromhydrique que vous mélangez avec 100 cm cubes d'eau. Vous faites dissoudre 2,50 g de gélatine nappée en feuilles minces. Vous ajoutez un zeste de bicarbonate de soude, 10 g de nitrate d'argent.
Mais il est écrit dans le destin d'Antoine, subtil cuisinier de l'image, que la postérité ne retiendrait pas son nom à lui, mais celui de ses deux fils. Il tente en vain de produire l'émulsion miracle qui permettrait de mettre la photo à la portée de toutes les bourses. C'est un échec total. En désespoir de cause, il pense à se reposer sur ses deux fils, Louis et Auguste, qui ont alors 16 et 18 ans. Il leur confie la mission de résoudre ce problème insoluble du bromure d'argent. Ce sera pour plus tard, car pour l'heure, Auguste est appelé à servir sous les drapeaux. En son absence, Louis se met au travail avec l'ardeur d'un chercheur d'or. Et en quelques semaines, il trouve la formule magique. L'émulsion sèche au bromure d'argent donne enfin le résultat attendu. En 1881, la photographie argentique est née. Antoine est aux anges. Il trouve un distributeur pour ses nouvelles plaques en la personne d'un pharmacien lyonnais qui les vend pour 4,50 francs la douzaine. Il est temps d'agrandir l'entreprise familiale. D'autant que les émanations délétères causées par les produits chimiques de l'atelier gênent beaucoup le voisinage. On fait donc construire un bâtiment plus grand à l'écart des habitations. Louis y travaille comme un forcené, jusqu'à 18 heures par jour, pour enduire les plaques de verre de la précieuse émulsion. Mais les sommes engagées dépassent rapidement les ventes. La famille s'endette. En quelques mois, Antoine se trouve débiteur de plusieurs centaines de milliers de francs. Quand il rentre de son service militaire, Auguste retrouve sa famille en plein drame.
Le lendemain de mon arrivée, mon père me fit appeler dans un laboratoire obscur de son usine en construction, n'osant pas m'entretenir au grand jour de sa situation qui était lamentable. Il n'avait encore pu arriver à rien, avec un passif de plus de 200 000 francs, et m'avouait les larmes aux yeux qu'il était menacé de faillite par ses créanciers. Avec 5 enfants et sans aucune ressource, il se trouvait dans un état de désespoir qui me bouleversa profondément. « Nous sommes perdus, me dit-il, mon pauvre enfant. »
Mais Antoine n'est plus seul. Il a à présent deux fils en âge de le seconder efficacement. Deux fils qui ont été instruits quotidiennement de tous les aspects techniques de son travail. Seul, il serait condamné à la banqueroute, secondé par ses deux garçons, fidèles, talentueux, travailleurs, créatifs. Tout est encore possible. Et puis, Auguste et Louis n'ont pas été formés à l'école habituelle, qui, selon Antoine, ne sert qu'à produire des fonctionnaires et des incapables. Ils ont étudié dans un institut hors norme, la Martinière, où l'on dispense un enseignement propre à développer tous les aspects de l'esprit humain. L'idée centrale de l'établissement est de considérer que toutes les activités humaines sont reliées entre elles et qu'il faut s'appliquer à nourrir et à développer chez l'élève tout ce qui peut permettre de passer d'une activité à l'autre.
l'enseignement de la Martinière ne comportait guère que les mathématiques et le dessin, avec un peu de physique et de chimie. Deux années d'école sur ces bases permettaient aux élèves de l'école d'être suffisamment armés pour entrer dans la vie et pour y réussir en général. Les facultés requises, les facultés acquises, initiative, raisonnement, sens de l'observation, adresse, conféraient au plus grand nombre la possibilité de sortir de la médiocrité.
Rien n'est perdu donc, puisqu'Auguste et Louis, qui se sont distingués dans cette école par leur assiduité, sont armés pour abattre tous les obstacles. En 1882, alors qu'ils n'ont que 20 et 18 ans, ils entreprennent de rassembler tous leurs créanciers et, armés de la solide réputation dont jouit déjà à Lyon la Maison Lumière, ils parviennent à obtenir un nouveau prêt. L'entreprise familiale peut redémarrer. Les deux garçons, plus enthousiastes que jamais, se mettent aussitôt au travail. Antoine est rassuré, son entreprise est entre de bonnes mains. Comment Auguste et Louis vont-ils faire prospérer cette entreprise familiale? Quelles inventions vont-ils mettre au point? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode.